Figurez-vous que les professeurs agrégés d'allemand ont beaucoup d'humour et aiment parfois prendre des chemins de traverse. C'est une balade dans un univers disparu que nous propose l'une d'entre elles. Le livre s'appelle « Les temps ont changé ». Il recense une trentaine d'objets, de pratiques disparues ou quasiment aujourd'hui. Est-ce que ces petites disparitions à peine remarquées disent de l'évolution de nos paysages, nos rues, nos maisons, notre société? La cabine téléphonique par exemple, mais aussi l'horloge parlante, le filet à crevettes, les bigoudis, la formule de politesse, la gamelle de l'ouvrier, le bénitier des familles catholiques, le serre-tête. À chaque chapitre, une description, parfois une photo de l'objet, et plus encore l'évocation du monde dans lequel il s'insérait. En quoi un monde sans boîte à compas, sans bidet, sans canne, sans cendrier martini est-il différent? Petit jeu, appelez-nous au 01 45 24 7000 ou laissez-nous un message sur l'appli France Inter. Quel objet, quelle pratique disparue vous revient en mémoire? Qu'est-ce qui s'est perdu avec lui? J'ai déjà un message de Sébastien, nostalgie des cassettes audio au chrome et leur odeur chimique inimitable fournie dans leur superbe boîtier cristal. Bonjour Arlette Camion.
Bonjour monsieur.
Docteur S-Lettres, agrégé d'allemand donc, maître de conférence honoraire et autrice de ce livre « Les temps ont changé ». Pourquoi vous êtes-vous mise à faire cette liste d'objets disparus? Qu'est-ce qui a déclenché cela?
Oh, c'est une longue histoire. Je pense que c'était plutôt le confinement. On s'est retrouvé un peu isolé, un peu loin de tout, et puis en se demandant ce que devenait le monde. Ouais. Alors je me suis dit, qu'est-ce qui se passe là? Regardons un petit peu du côté de mon enfance, comment c'était. Et j'ai voulu un peu évoquer ça, ces objets, plutôt que de me poser de grandes questions, parce que c'est plus facile, bien sûr, d'évoquer les objets. Alors j'ai pris des objets, comme vous avez dit, cocasses ou anodins, et puis j'ai regardé ce qu'ils étaient devenus, s'ils avaient disparu, s'ils avaient laissé un vide, et ce que ça signifiait en quelque sorte.
Et certains reviennent, comme la couchette par exemple pour le train de nuit, puisqu'on est en train de rouvrir des lignes de nuit. Je n'ai jamais réussi au fil du livre, enfin j'ai ma petite idée quand même, à savoir si vous étiez dans l'humour, la nostalgie, vous slalomez un peu entre tout cela. Vous écrivez dans l'introduction, la vieillesse c'est le temps des sidérations, s'apercevoir tout d'un coup qu'on est dépassé, brutalement c'est là, je ne comprends plus. C'est au moment du confinement que ça s'est cristallisé?
Oh, je pense que ça a été une expérience un peu partagée avec tout le monde, à ce moment-là. Bon, vous savez, les vieux, de toute façon, ils comprennent pas grand-chose au monde. Ça se reproduit à chaque génération. Enfin, notre génération a été quand même confrontée à des changements, des bouleversements absolument fabuleux.
Allons-y sur les objets et avant d'aller au standard, parce qu'il y a beaucoup d'appels. Tout ce qui traduit au fond l'accélération. Alors partons de l'horloge parlante qui existe toujours, mais avant elle donnait l'heure toutes les 30 secondes, aujourd'hui toutes les 10 secondes. Ça raconte l'accélération du temps, et de toute façon aujourd'hui Arlette Camion, l'heure est partout, on n'a plus besoin d'horloge parlante.
Ah non, on n'a plus besoin d'horloge parlante, j'étais même très très étonnée qu'elle existe encore. Oui. Parce qu'on la compulse jamais. On n'a pas du tout l'occasion d'aller soulever le téléphone pour demander l'heure. Elle est partout, comme vous venez de dire. C'est très significatif qu'elle soit partout aussi.
Et ça raconte aussi, dans le même chapitre, vous évoquez la disparition de cet objet, la montre à gousset, qu'on sortait lentement parce qu'on avait le temps de regarder l'heure. Et vous écrivez, je ne sais pas exactement quand la durée devint ringarde, on se mit à tout chronométrer, les cadences des ouvriers, l'attente au téléphone, l'anxiété a pris des allures exponentielles, et puis on en revient au confinement qui nous a redonné le sentiment du temps. Allez, nous allons au standard. Bonjour Bérénice.
Bonjour.
Un objet dont vous êtes nostalgique.
Oui, alors moi je regrette le papier bleu à mon époque dont on couvrait les fournitures scolaires. Ouais. La première fois, c'était mes parents qui le faisaient avec moi et c'était déjà une leçon de respect pleine d'enseignement. Bien s'emprer l'ouvrage, tenir compte de son épaisseur, sans scotch, bien marquer la pliure du pouce et de l'ongle, et cela conférait à l'objet toute sa valeur, durable puisqu'il passait dans les fratries, son contenu, sa transmission, le respect en un mot. N'emballons-nous pas les cadeaux. Celui-ci m'était fait par mes parents pour accéder au savoir par la plus belle chose, l'écriture reçue et donnée. Et quand on me prête un livre, je m'empresse de le couvrir avec du papier. Et j'ai alors 6 ans et mes parents me guident la main.
Merci beaucoup pour ce témoignage. On voit qu'à chaque objet disparu, il n'y a pas seulement l'objet, mais plein de choses qui cela raconte beaucoup de choses. Alors, il y a des objets ou des pratiques liées à l'univers scolaire, hein, dans le livre Arlette Camion, le buvard, par exemple.
Ah oui, le buvard a complètement disparu. Oui. Mais l'écriture s'est complètement transformée, elle aussi. Hein, elle est complètement mécanisée. Elle se balade un peu partout sur la planète. C'est absolument plus le même rapport avec l'écriture.
Le gaffio aussi, et ce qui est intéressant, alors le gaffio, c'est le dictionnaire latin-français, je pense qu'il existe toujours quand même, le gaffio.
Ah oui, il existe toujours, mais il n'est plus tellement en usage. Beaucoup moins de petits écoliers sont obligés de passer des heures dans les gaffios.
Autre témoignage au standard, Brigitte à Marseille. Bonjour Brigitte.
Bonjour Bruno.
Nous vous écoutons.
Eh bien moi j'ai pensé à l'anti-montelet. C'était un petit cercle de verre qu'on mettait au fond de la casserole quand on faisait bouillir du lait. Et quand il commençait à tapoter au fond de la casserole, ben, c'était pour éviter que le lait déborde de la casserole.
Anti-montelet, ça, vous vous souvenez de ça, Arlette Camion? Merci Brigitte.
Oui, bien sûr. Toutes les ménagères avaient un anti-montelet dans la cuisine.
Alors, il y a deux choses que moi, je connaissais pas, pardon, dans votre livre. Le manche à gigot.
Ah, vous ne connaissiez pas le
manche à gigot? Mais non, je connaissais pas. Qu'est-ce que c'est qu'un manche à gigot, je suis navrée.
C'est très emblématique des maisons bourgeoises, voilà. Le manche à gigot. C'était une espèce de petit embout qu'on mettait sur l'os du gigot, ce qui permettait au maître de maison de se lever, de se saisir de la main gauche de ce manche à gigot et de découper avec la main droite les tranches de gigot tout à fait succulentes. Il faisait ça de façon très solennelle et vous voyez, c'était d'un très grand raffinement.
Et il y a une série d'objets qui nous disent au fond que les classes sociales n'ont sans doute pas disparu, mais qu'elles s'affichent moins. Par exemple, le serre-tête des jeunes filles comme il faut, c'était l'équivalent de la casquette molle de l'ouvrier. Chacun s'affichait clairement et aujourd'hui, ça n'est plus le cas.
Il me semble que c'est plus difficile de repérer l'origine sociale ou bien l'appartenance sociale des gens dans la rue.
Ouais. Toujours au standard, Philippe. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Alors moi, c'est pas un objet qui a disparu, mais c'est une émission. L'objet a continué d'exister, c'est une radio, c'est celle que j'écoute quotidiennement depuis que j'ai 5 ans, c'est la vôtre. Et donc, j'ai été biberonné à France Inter, et tous les mois de juillet, de 5 ans à 15 ans, j'allais en vacances chez mes grands-parents qui étaient au bord de la mer, sur la côte de Jeanne, entre Pornic et la pointe Saint-Gilda, et mon grand-père pêchait de temps en temps, et il écoutait une émission super importante pendant laquelle il fallait qu'on me fasse absolument aucun bruit, c'est la météo marine.
Ouais, je vous voyais bien.
Et la météo marine, j'ai appris des mots incroyables. Forties, vikings, je voyais des hordes de barbares arriver sur les côtes de Pornic, Shannon, Sol, etc. Il n'y avait pas Internet à l'époque, je ne savais absolument pas dans quel univers j'étais projeté. Mais un jour, j'ai appris que cette émission allait disparaître de la bande FM de France Inter. Et là, j'ai eu comme un coup au cœur parce que je me suis dit que c'était une part de mon enfance qui disparaissait. Et si France Inter pouvait me faire le plus beau des cadeaux de Noël, ce serait demain matin, demain soir, même après-demain, de diffuser un bulletin de météo marine sur la bande modulation de fréquence.
Alors,
Merci beaucoup.
Je crois que vous êtes nombreux dans ce cas-là, ça relève pas de moi, mais je prends bonne note et on embrasse Marie-Pierre Planchon. À propos de la mer, Arlette Camion, le filet à crevettes a disparu alors?
Ah oui, mais il n'y a plus beaucoup de crevettes sur les plages.
Voilà.
Alors, il nous fait pas défaut celui-là. Par contre, la météo marine de votre auditeur, alors oui, pour moi, c'est toute une partie de mon enfance. C'est vrai, mon grand-père habitait au bord de la mer et c'est exactement ce que décrit votre auditeur. Il fallait se taire, c'était très important, il y avait des mots magiques.
Ce que vous nous décrivez aussi, c'est un monde dont les odeurs ont disparu. Il y a un chapitre pissotière, fumier et papier gras.
Oui. Ça m'a beaucoup frappé en essayant de faire le point. En effet, je crois qu'on a perdu énormément d'odeurs. D'abord, les gens sentaient mauvais en général. Hein. ils sentaient pas la rose. Mais les odeurs étaient beaucoup plus présentes.
Témoignage de Pierre qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Pierre.
Oui, bonjour.
Alors, quel objet?
Moi, c'est la ronéotypeuse.
Oh là là. Alors, à quoi ça servait, ça?
Ma maman était directrice d'école à la campagne, et elle écrivait tous ses cours à la main pour le lendemain, pour les différentes classes. Et donc, le soir, une fois que le manuscrit était fait, il fallait le rognotyper, c'est-à-dire le copier avec une rognotypeuse, qu'on ancrait avec une encre violette et qui sentait très fort l'alcool à brûler, puisque voilà. Et moi, le soir, après l'école, je tournais la manivelle de la rognotypeuse, pas tous les soirs, bien sûr, mais c'est un souvenir très fort.
Oui.
Et très fort aussi olfactivement, parce que le lendemain, quand on avait les papiers en main, les élèves, il y avait quand même toujours cette odeur un peu persistante d'alcool à brûler, qui est une odeur. Moi, dès que je sens l'alcool à brûler, je repense à la rognotypeuse.
Merci pour ce témoignage. Bon, Arlette Camion, il faut parler de ce qui fait l'ouverture de votre livre, La cabine téléphonique. Avant de vous entendre, je voudrais qu'on entende Roland au standard. Bonjour Roland.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez de Grenoble?
Non, je vous appelle de Paris, mais c'est parce que j'ai de la famille à Grenoble.
Ouais.
En fait, moi, je vais mettre une petite touche un peu peut-être moins nostalgique, mais plutôt que de parler au participe passé ou à l'imparfait, je vais parler au présent, voire au futur, pour dire qu'au sujet justement des cabines téléphoniques, il y a actuellement, depuis maintenant plusieurs mois sur Grenoble, un collectif de gens que je connais un petit peu et qui, eux, se sont mis en tête et qui œuvrent à justement la restauration des cabines téléphoniques telles qu'on les a connues. Et donc, en fait, on aimerait bien les reconnaître de nouveau pour tous les avantages que ça a. Et donc, ce mouvement de réinstallation des cabines téléphoniques, c'est sur la cuvette de Grenoble, enfin Grenoble Centre et les alentours. Et on espère bien que ça va voir le jour prochainement.
Voilà, on suivra ça. Merci.
Il n'y a pas de la nostalgie, il y a le futur aussi.
Le futur aussi. D'autant que, Arlette Camion, ce que vous dites, c'est qu'elles étaient moches quand même, ces cabines téléphoniques, elles étaient crado.
Oui, elles étaient plantées un peu n'importe où aussi.
Et d'elles émanait un parfum de secret, en fait. On ne savait pas bien ce qui se disait, forcément, puisqu'elles étaient fermées.
Oui, mais elles étaient moins fermées que les cabines des bureaux de poste qui ont précédé celles-là. Celles-là, les cabines des bureaux de poste, c'était un peu comme un confessionnal. Ouais. On était enfermés là-dedans, ça donnait un peu une ambiance de secret. Tandis que la cabine téléphonique publique dans la rue, elle était un peu comme une cabine de douche. Alors, on se sentait pas très bien là-dedans. On avait un peu l'impression d'être tout nu. On avait envie de se cacher. Il y avait tout un rapport un peu bizarre.
Sauf que maintenant, on entend les conversations de tout le monde dans le train avec le téléphone portable et on s'aperçoit que les conversations n'ont aucun intérêt.
Oui, c'est bien dommage pour les gens qui sont un peu curieux et puis qui voudraient trouver de l'intérêt aux échanges. En fait, non, il n'y en a pas.
Allez, en vrac, des objets pratiques ou aliments qu'on voit moins via le site internet, via l'appli, les œufs durs sur les comptoirs des cafés, la corde à sauter, tout ça n'a quand même pas totalement disparu, le tablier en classe, le martinet, faut-il en être vraiment nostalgique, nous dit Yann, et encore une cassette audio. Et un dernier témoignage, celui de Marie-Josée. Bonjour Marie-Josée.
Oui, bonjour à tous.
Vous nous appelez de Lyon. Alors l'objet disparu, vous, c'est la Jeannette. Qu'est-ce que c'est ça, la Jeannette?
La Jeannette, c'est un objet qui ressemble en beaucoup plus petit à une planche à repasser, donc avec un bout, une extrémité large et une extrémité plus fine. Et on posait cet objet sur la planche à repasser et ça servait à repasser très précisément, par exemple, des fronces ou des hauts de manches, par exemple, sur une chemise.
Oui.
Voilà, et bon. C'est un objet qui me manque aujourd'hui quand je fais du repassage, parce que j'arrive jamais à bien faire ce genre de choses.
Je ne vous dis même pas ce qui se passe quand moi je repasse les chemises, ce que je fais, mais ça, c'est pas toujours terrible. Arlette Camion, ça vous manque la Jeannette aussi?
Oh, ben j'en ai encore une, vous savez, je suis peut-être un peu dinosaure.
Et vous avez un cendrier martini aussi?
Ah non.
Bon.
mais il me manque.
Bon, et une gamelle d'ouvrier, vous en avez?
Oui, j'en ai encore une, quelque part.
Bon, merci beaucoup d'avoir dialogué avec nous, Arlette Camion. Et je ne pensais pas obtenir un tel succès au standard. Les temps ont changé, c'est édité aux presses universitaires de France. Et vous aurez compris que c'est une très bonne idée de cadeau pour éviter de parler du Covid ou de l'élection présidentielle. Et puis, on parlait de la météo marine. Le cher Nicolas Demorand y a consacré un de ses 80 secondes dans le 7-9 de France Inter récemment. Vous pourrez retrouver ça facilement sur franceinter.fr.